Chers frères et sœurs, vous n'êtes pas sans savoir la dernière remise du rapport de la SIAZ à Mgr de Moulin-Beaufort et toute la couverture médiatique que nous en avons fait. Et à travers tout ce que cela révèle, je me disais, mais comment puis-je encore aujourd'hui leur parler? Comment l'Église aujourd'hui peut encore vous parler? C'était une vraie question pour moi. Après la Deuxième Guerre mondiale, vous savez peut-être, certains s'étaient dit, on ne peut plus parler de Dieu comme avant. Après les camps de concentration et d'extermination, eh bien, le discours traditionnel sur Dieu, un Dieu bon et tout puissant, il fallait le repenser, non qu'il soit faux. Et donc, un philosophe a réfléchi, Hans Jonas, un juif, et a élaboré une théologie vraiment belle et profonde, et il a écrit un petit livre remarquable, Le concept de Dieu après Auschwitz. Or, aujourd'hui, dans l'Église en général, dans l'Église de France en particulier, le problème n'est pas tant comment réélaborer nos concepts de Dieu, un Dieu qui laisse se perpétrer les horreurs qui ont eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais peut-être la question est un peu différente, peut-être plus grave. Comment ceux qui ont fait de Dieu leur part et leur héritage l'ont à ce point trahi? Comment des hommes ont dévoyé l'Église, dévoyé l'institution, en se servant de son prestige, de son honorabilité, pour arriver à des fins si funestes et si terribles? Comment ont-ils pu détruire des vies et causer le scandale? Le scandale, retrouvons le sens de ce mot, même s'il nous fait mal. Qu'est-ce que le scandale, sinon désespérer de la bonté de Dieu à cause de la malice des hommes? Et que cela est vrai pour bien des personnes. Voici donc le visage de Dieu à nouveau abîmé, flétri, défiguré. Alors je me disais, pour vous, frères et sœurs, pour moi aussi, il faut aller jusqu'au bout des sentiments peut-être que cela peut générer en nous, sans forcément les ratifier, mais en les accueillant. Peut-être un sentiment de colère qui est finalement un désaveu extrêmement profond de ce qui s'est passé, qui s'inscrit dans les fibres de notre affectivité, ou bien un abattement. Il faut laisser la place à cet abattement. Nous sommes terrassés, mais pas anéantis, c'est certain. Ou bien un deuil d'une image de l'Église qu'on pouvait avoir. Aller jusqu'au bout de tout cela. Mais pourquoi, je me disais aussi, pourquoi ce scandale, même si on sait que la grosse partie de ces histoires remonte entre les années 50 et 70, et la périodisation a été faite, il reste encore aujourd'hui des situations scandaleuses. Pourquoi est-ce que ce scandale est si grand? Eh bien, c'est que, malheureusement, des ministres de l'Église ont justifié ce que le Seigneur disait à propos des pharisiens. Ils disent, mais ne font pas. Ils proclament une morale très élevée, très haute, mais leur vie est toute au rebours. Et pire que cela, quand il eut fallu parler, beaucoup n'ont été que des chiens muets, pour reprendre l'expression d'Ézéchiel. Bref, il y a un soupçon légitime que je m'adresse à moi-même sur la validité de notre parole, nous, hommes d'Église. toute parole de prêtre n'est-elle pas qu'une parole de pharisien? Et si on élargit, toute parole de chrétien n'aurait-elle pas de l'hypocrisie? Bref, je reprends cette parole. Comment vous parlez encore aujourd'hui? Le pape François disait, c'est le moment de la honte. Et quand on a honte, on se tait. Si néanmoins, frères et sœurs, je continue à vous parler, les hommes d'Église continuent à vous parler, en tremblant, c'est que l'Église ne doit jamais cesser de montrer quelqu'un, de montrer celui qui est à la hauteur de ce drame, le Christ. Et cesser de parler, ce serait prolonger une trahison. Car qui est-il finalement le Christ? Eh bien, il est le seul qui est vraiment du côté des victimes. Quand nous disons, nous avons raison de le dire peut-être, mais que nous sommes solidaires de ces victimes, nous le savons, il y a un abîme entre ce qu'elles ont vécu et la résonance que cela produit en nous. Il est précieux qu'elles puissent rencontrer des oreilles, des cœurs, des intelligences attentives, mais l'abîme demeure. Frères et sœurs, le Christ est le seul suffisamment dépouillé de lui-même, suffisamment dépris de son moi humain pour pouvoir recevoir intégralement dans sa sensibilité, dans son cœur, tout ce que ces personnes ont vécu. Il est vraiment celui qui est venu pour cela, pour ne faire plus qu'un avec ces personnes brisées et pour rompre ainsi ce qui est plus terrible que tout, la solitude dans laquelle nous plonge le malheur. En sa passion, le Christ a visité toute détresse. C'est ce Christ aux outrages, ce Christ qui brise toute solitude, tout enfermement. Ce Jésus-là, il faut continuer à l'annoncer, à le proclamer. Mais plus difficile encore, si je puis dire, nous aimerions nous en arrêter là. Mais le Christ a choisi une autre identification. Il prend sur lui le mal commis par les bourreaux. Il refuse que le bourreau soit écrasé et broyé par le mal qu'il a commis, comme cela devrait être s'il n'était pas venu, car le Christ a donné sa vie pour tous, y compris pour les plus grands criminels. Dès son baptême, le Christ se met dans la file des pécheurs, en attendant d'être baptisé par Jean, entre un Romain qui brutalise la population et une prostituée qui vient implorer le pardon de ses péchés. Le Christ est là. Et le Christ est toujours au milieu des pécheurs. C'est cela le mystère de notre foi. Et cela non plus, même si c'est parfois dur à maintenir, ce qu'il faut absolument garder. Il assume, notre Seigneur, cette solidarité avec les pécheurs. Il a le premier, si je puis dire, honoré, vécu, illustré cette phrase d'Étienne et Soum, qui vous le souvenez, mort dans les camps de concentration en 43, elle disait, devant toute cette horreur, ce qu'il y a de laideur dans l'autre est aussi en moi. Car qui est innocent du mal commis? Vous vous souvenez peut-être de cette anecdote, cet épisode en tout cas tellement profond. Au sortir de la guerre, le père Brault, ce grand prédicateur de Notre-Dame de Paris, en 1946, était maître des novices. Et ces novices dominicains, devant les films qui sortaient montrant l'horreur des camps nazis, ces novices dominicains se scandalisaient et étaient horrifiés, disant « cela est monstrueux ». Ils avaient raison. Mais leur indignation leur permettait de leur acheter une bonne conscience à bon compte. Et le père Brault leur disait « si vous ne savez pas que vous êtes tous capables de cela, vous n'avez rien compris au christianisme. » Un auteur titrait dernièrement « rien de ce qui est inhumain ne m'est étranger ». Si nous n'allons pas jusqu'au bout de cette solidarité dans le mal, nous n'irons pas vers le salut, car quelque part, nous nous sentirons encore des justes sans besoin d'un sauveur. Mais au milieu de tout cela, qui que nous soyons, nous avons besoin enfin de regarder le Christ d'une autre façon. Regarder le Christ parce qu'il est l'innocent. Plusieurs grandes figures ces derniers temps dans l'Église sont tombées de leur piédestal, se sont écrasées dans la poussière quand on a compris la face obscure et révélé la face obscure de leur vie. Que de deuil ! Et de nos cœurs, peut-être, se levait cette interrogation : qui est saint ? Eh bien voilà, le Christ est l'innocent parce qu'il est celui qui, au sens premier du terme, ne nuit pas, ne nuit à personne. Qui d'entre nous peut dire qu'il est parfois source de destruction des âmes autour de lui, de nos relations? Eh bien voilà, poser longuement nos regards sur le Christ innocent, voilà qui nous répare, voilà qui nous restaure, voilà qui nous fait à nouveau espérer. Nous avons besoin de le contempler longuement parce que notre âme a soif de cette pureté, de cette innocence qu'il veut en définitive nous communiquer. Contemplons-le, supplions-le et disons-lui: ô Christ, sauve-nous de nous-mêmes.